Vous écoutez RTL.
Nogent-sur-Oise vient de terminer sa cinquième nuit blanche, sa cinquième nuit de peur. Dans les quartiers résidentiels, on ne dort plus. Au moindre crissement de pas sur le gravier, au moindre craquement de branches, au moindre gémissement du vent, on sursaute. L'assassin de l'ombre est peut-être là, dissimulé dans la nuit, dans le silence et dans la brume.
Bonsoir, on l'appelle le tueur de l'ombre parce que cet homme ne frappait qu'à la tombée du soir, entre chien et loup, ou à la faveur d'un temps maussade. Marcel Barbeau, condamné pour avoir tué 5 fois sur les 8 meurtres qu'on lui imputait, est aujourd'hui le plus ancien détenu de France. 45 ans de détention ininterrompue. Au mois d'août, Barbeau fêtera derrière les barreaux son anniversaire, 80 ans tout rond. Malgré le temps écoulé, son histoire demeure stupéfiante, elle est synonyme de 7 années de terreur sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, d'une psychose qui, entre 1969 et 1976, va s'emparer de la population, des femmes en particulier. Ce sont elles que le tueur de l'ombre pourchasse et exécute à l'issue d'un rituel sadique, une série de crimes qui va faire perdre le sommeil aux enquêteurs. Voilà donc un assassin qui habite certainement cette petite ville de l'Oise, y travaille, y a sans doute des amis, une famille peut-être, mais qui ne va cesser de glisser entre les doigts des policiers. Comment Marcel Barbeau, ouvrier discret, est devenu l'un des plus grands criminels français? Que cherchait-il en tuant toutes ces femmes qu'il préférait brunes? Nous allons ce soir, avec nos invités, essayer de lever tous ces mystères.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, le tueur de l'ombre, l'invisible Marcel Barbeau. Une trajectoire sanglante qui débute à l'hiver 1969, en début de soirée, à Nogent-sur-Oise, commune limitrophe de Creil, dans l'Oise. Ce vendredi 10 janvier 1969, aux alentours de 19h, Françoise Lecron vient juste de rentrer chez elle à un pavillon au numéro 130 de la rue Fédère à Nogent-sur-Oise. L'épouse du sous-directeur de l'usine Saint-Gobain de Rantigny est dans sa cuisine. Il fait nuit et on peut apercevoir sa silhouette à travers le carreau. Françoise Lecron s'affaire quand soudain une vitre claque. Elle ressent immédiatement une vive douleur à l'épaule. Elle s'écroule sur le carrelage, elle est blessée, mais a la force de téléphoner tout de suite à la police. Le chef de la sûreté urbaine de Creil, l'inspecteur Courtois, et 2 de ses hommes se rendent aussitôt sur place. La victime est soignée, encore sous le choc, mais elle ne se souvient de rien. Sinon, du bruit. C'est tout simplement une miraculée. Les policiers vont relever pas moins de 6 impacts de balles calibre 5,5 mm. On a voulu tuer Madame Lecron, agression qui a sans doute un rapport avec la situation professionnelle de son mari, peut-être une vengeance professionnelle. Près de 2 semaines après les coups de feu chez les Lecron, vendredi 24 janvier, un cheminot retraité qui promène son chien le long de la voie ferrée de Nogent découvre le corps d'une femme. Thérèse Adam, une représentante en cosmétique de 46 ans, est en partie dénudée, agenouillée la face contre terre, son visage semble abîmé et a peut-être reçu des coups. Elle a été exécutée d'une balle dans la nuque. Rien de vraiment naturel dans cette scène de crime qui semble avoir été justement mise en scène. La victime habite juste à côté, au numéro 41 de la rue des Frères Perrault. Elle a été tuée la veille au soir alors qu'elle venait de rentrer sa voiture dans son garage. C'est à ce moment-là que son meurtrier l'a surprise et l'a entraînée dans l'obscurité près de la voie ferrée, un coin parfaitement désert à cette heure-là. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. L'autopsie de Thérèse Adam révèle bien la présence d'une balle, calibre 5,5 mm, exactement la même que celle utilisée pour tirer sur l'épouse du directeur adjoint de Saint-Gobain. La balistique va confirmer que c'est la même arme qui a été utilisée contre 2 femmes qui ne se connaissaient pas. Le doute n'est plus permis, un assassin rôde en ville. La presse commence à sortir quelques gros titres. Le tueur sadique de Nogent-sur-Oise n'est toujours pas identifié. Annonce alors le journal Oise Matin. Bonsoir Alain Hamon.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'avoir accepté, Alain, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes un ancien reporter de cette maison RTL. Vous êtes, entre autres, parce que vous avez écrit beaucoup de livres consacrés à la police et aux enquêtes, vous êtes l'auteur de « Bonjour, on vient pour l'affaire », 50 ans de faits divers aux éditions JPO dans la collection de Jacques Pradel, livre dans lequel vous revenez très longuement sur cette affaire Marcel Barbeau. Et pour cause, ce sont vos débuts finalement dans le journalisme. Vous êtes tout jeune à l'époque, apprenti journaliste dans ce coin de l'Oise, quand éclatent ses premiers coups de feu. Très vite, la presse et les enquêteurs sentent, Alain, qu'il s'agit d'une affaire pas vraiment comme les autres, on peut le dire comme ça.
Ah bah oui, dès qu'ils ont eu les résultats de la balistique et qu'ils se sont aperçus que la même arme avait tiré sur Madame Lecron en la blessant, mais avait tué Madame Adam, Thérèse Adam. C'est sûr que déjà deux meurtres avec une seule arme, ça fait un seul tueur. Bon, et puis en plus, Madame Adam, il y a une chose très particulière, c'est que quelque temps avant d'être assassinée, elle était allée voir au commissariat de Craig, qui était un commissariat un peu particulier parce que il logeait dans un hôtel particulier justement. Mmh. C'était assez cossu. Et donc elle va voir le commissaire Hirt, Thérèse Adam, qui la reçoit, et là elle lui dit, elle commence direct, elle lui dit, monsieur le commissaire, vous avez devant vous une morte.
Ah, carrément.
Alors,
ouais.
Ah oui, oui. Alors le commissaire de la police urbaine de Creil la regarde, lui dit, pardon madame, vous avez devant vous une morte, on va me tuer. Avez-vous arrêté le tireur qui a blessé Madame Lecron? Non, lui répond le commissaire, non, absolument pas, on n'a pas trouvé pour l'instant. Eh bien c'est lui. Je suis sûr qu'il va m'attaquer, je suis surveillé, je me sens suivi tous les jours, je me sens surveillé derrière mes volets dans mon pavillon, je suis sûr que la prochaine, ce sera moi.
Et donc,
ça a été elle.
Et ça a été elle, mais effectivement, c'est les enquêteurs, là, il y a un doute, mais c'était pas vraiment la personne, elle désignait pas la bonne personne, je crois, hein, c'est ça.
Non, elle désignait pas la bonne personne parce que à un moment donné, elle pensait que c'était le fils de
ouais,
sa voisine,
qui lui voulait du mal.
Mais bon, il avait un alibi en béton armé parce qu'il était militaire et il était en poste en Afrique au moment des faits.
C'est ça.
Donc il
n'y
a pas eu. Voilà. Oui. Mais bon, de toute façon, répétons-le, une fois la balistique connue, c'était terminé. Il y avait un type qui rôdait à Nogent-sur-Oise avec une carabine 22 Lorifi qui s'attaquait aux femmes.
Oui, c'est ça. Donc c'est déjà le décor est parfaitement planté. On a en ligne Daniel Neveu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir monsieur Neveu, vous êtes ancien policier, inspecteur principal à la police judiciaire à Creil en septembre 1974. On va évidemment revenir sur l'enquête parce que vous êtes un élément capital dans cette enquête. C'est même vous qui avez déclenché, si je puis dire, l'arrestation de Barbeau. On n'en est pas là pour l'instant et à cette époque, lors de ces premiers faits, vous n'êtes pas d'ailleurs à la police judiciaire de Creil, mais je voudrais vous entendre un petit peu sur un mot. Qu'est-ce qu'elle dit cette première scène de crime? Je parle celle de Thérèse Adam. En quoi elle est étrange ou particulière?
Elle est particulière parce qu'il n'y a pas de... En dehors du vol de sac à main, il n'y a pas de mobile apparent. Mmh. Et puis, quand bien même il y aurait eu vol de sac à main, ce qui a été le cas, ça n'explique pas le processus antérieur, c'est-à-dire une personne qui rentre chez elle en voiture, qui est assommée devant son garage, qui est transportée sur 50 mètres au-delà d'une voie de chemin de fer, qui est exécutée après avoir été déshabillé.
Il y a une mise en scène, monsieur Neveu, on peut le dire comme
ça. Tel que je viens de le décrire, c'est effectivement une mise en scène.
C'est ça. Donc c'est dans le but, selon vous, de frapper les imaginations? Ou c'est un travestissement pervers? Je ne sais pas.
Le tueur, quand il agit de cette manière, obéit à un plan macabre dont il est seul... Le seul maître d'œuvre dont il a seul la clé.
Le tueur de Nogent-sur-Oise va bientôt devenir le tueur de l'ombre, tant cet homme semble apprécier l'obscurité. En cette année 1969, il va encore frapper, mais cette fois, on va apercevoir sa silhouette et même ses yeux, des yeux de chat. Ce 17 novembre 1969, au soir, alors qu'il pleut des cordes sur la région, un homme grand et costaud, vêtu d'un ciré de pêcheur marron, le visage masqué par un foulard rouge, fait irruption dans un pavillon au numéro 100 de la rue Faidherbe. Il est armé d'une carabine. Il y surprend Suzanne Mérienne, 44 ans, et sa fille Micheline, 19 ans. Il entraîne les deux femmes dans le jardin, puis vers un talus désolé et boueux, à proximité de la ligne de chemin de fer. Il pousse la fille, totalement pétrifiée dans un coin, il emmène un peu plus loin la mère, la ligote, et lui tire une balle dans la tempe. La jeune Micheline a alors le réflexe de s'enfuir, elle réussit à se sauver dans la nuit aux policiers, et malgré sa détresse, elle parvient à décrire un individu de forte stature. Elle se souvient d'un détail frappant, il avait des yeux légèrement en amande, des yeux de chat. Le tueur a semé des indices. Il a perdu ou laissé tomber un sac en tissu écossais. À l'intérieur, 6 balles de 22 longs rifles dans du papier journal. Un policier parle d'un homme qui habite le secteur et qui épie ses victimes. Ce serait un détraqué sexuel qui a une grande connaissance des armes à feu. La même carabine semble avoir été utilisée lors des 3 attaques. Le juge d'instruction de Senlis souhaite la diffusion d'un portrait robot. Pas de dessinateur attitré dans les rangs de la police. C'est donc celui du journal France Soir qui est recruté pour l'occasion. S'affiche ainsi dans la presse, les commissariats, les gendarmeries, le visage d'un homme jeune, aux cheveux bruns, sourcils fournis et regard pénétrant comme les yeux d'un chat. Des gardiens de la paix et des gendarmes sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, montrer notamment aux habitants le fameux sac écossais laissé par le tueur. Celui-ci est exposé à la mairie de Nogent où la population est appelée à défiler. Des ouvriers de l'usine de Montaterre, une commune limitrophe, croient alors reconnaître la besace de l'un de leurs collègues, Marcel Barbeau, celui qu'on appelle le Grand parce qu'il est costaud et a fait de la boxe. Mais aucun de ces hommes ne donne son nom, pas question de dénoncer l'un des leurs. 9 personnes sont entendues, mais aucune n'a le profil de l'assassin. Celui qu'on appelle désormais officiellement le tueur de l'ombre reste anonyme. Il va le rester longtemps puisqu'il ne va plus faire du tout parler de lui. 3 ans et 3 mois de silence. Daniel Neveu, ancien policier, vous avez traité cette affaire un petit peu plus tard dans les années à venir. Et on dira pourquoi vous avez joué un rôle pivot et capital dans cette affaire. Question très simple, pourquoi d'ores et déjà, dès ses premiers crimes, la police parle d'un détraqué sexuel? Parce qu'il y a des mises en scène de ce type-là que vous retrouvez sur les lieux de crime?
En ce qui concerne Madame Adam, je vous ai dit qu'elle avait été dénudée vers le bas de son corps et qu'il y avait eu probablement une sorte de jeu au niveau de son sexe. Pour Madame Mérienne, avant qu'il n'emmène les deux femmes au fond du jardin, il s'adonne à quelques attouchements sous leur jupe. Donc là encore, il y a une pseudo-mobile sexuelle.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de viol proprement dit, ce sont des attouchements, simples attouchements comme ça, où il déshabille ses femmes. Hein.
Dans aucune des affaires, il n'y aura viol au sens où il y aura pénétration du sexe de la dame.
Donc il y a une espèce de jeu pervers qui se met en place, on peut le dire comme ça, Daniel Neveu.
Disons qu'il y a une phase de dénudation et d'observation et le jeu au niveau du sexe.
Alain Hamon, vous qui avez suivi cette affaire à l'époque et qui la connaissez vraiment sur le bout des doigts de A à Z, avec cette affaire Mérienne, la mère et la fille, là, on a l'impression qu'on passe quand même un cap important dans la stratégie criminelle.
Oui, et pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde. Il y a une chose qu'il faut dire, hein, c'est que nous sommes en 1969, la police judiciaire à Creil, ça n'existe pas. Hein. Tout vient de Paris.
Oui, c'est ça.
Tout est à Paris. Ça s'appelle encore la Sûreté Nationale, et la police judiciaire, elle est basée à Versailles, elle est basée rue du Faubourg Saint-Honoré, elle est basée rue des Saussets au ministère de l'Intérieur, et donc tout le monde vient de Paris.
Il n'y a pas vraiment de décentralisation, comme on pourrait dire, hein, c'est ça.
Il n'y a pas de décentralisation. Les services régionaux de police judiciaire, ça n'existe pas encore. C'est le laboratoire, pour ce qui concerne la balistique, par exemple, c'est le laboratoire de la préfecture de police du 36 qui est des orfèvres, qui s'occupe des armes. Donc, je veux dire, ça ajoute et à la difficulté, mais aussi, lorsqu'on met le paquet, on met le paquet. Mmh. Alors là, après l'affaire Mérienne, je peux vous dire que des gens de police judiciaire venus de Paris, on en a vu un paquet. Oui. Et puis pour la presse aussi, l'affaire Mérienne, c'est un tournant. Moi, je m'en souviens, vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de dire que, en effet, c'était ma première affaire.
Ah, c'est
criminelle.
Votre baptême du feu.
J'avais
dit,
En 69, j'avais 17 ans, j'avais même pas permis de conduire. Je faisais mes reportages en mobylette et en scooter.
Tout jeune journaliste, apprenti journaliste.
Oui, correspondant de presse, correspondant local de presse. Et c'est d'ailleurs avec l'affaire Mérienne que je vais rencontrer les premiers reporters de RTL avec lesquels je vais lier connaissance.
Alain Mont,
Et donc la presse pour l'affaire Mérienne, la presse ça va être énorme.
Évidemment, ça va être un déferlement. On a en ligne Édouard Benco. Bonsoir, Édouard Benco.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans l'heure du crime. Vous avez été l'un des collègues de Marcel Barbeau. On reviendra avec vous sur sa personnalité. Mais avant cela, racontez-nous, j'ai narré cette scène à la mairie avec le sac du tueur qui a été exposé. Vous y êtes allé, vous, et c'est là, vous avez eu les premiers soupçons à ce moment-là ?
Eh ben oui, ça. On a tous été voir ce sac. Lui, il n'y a pas été, bien sûr. Et quand on a vu le sac, on a reconnu son sac. Et de là, ça commençait déjà les soupçons là. Mais naturellement, après, elle a dit, des sacs comme ça, il y en a partout. Tout le monde en avait un, c'était la mode à l'époque pour les travailleurs, qui avaient ce sac avec les casse-croûtes à l'intérieur. Il y avait ce sac, et puis même au départ, c'est venu de là. C'était simplement des soupçons, mais c'était pas une certitude. Il y en a qui disaient, mais tu crois pas que c'est lui? D'autres disaient, mais non, c'est pas possible. C'était partagé, les avis.
Alors vous avez des doutes, et vous le dites, et pas de certitude. En revanche, je crois que l'un de vos collègues a eu, lui, la certitude que ce sac appartenait à Barbeau. Il a même dit à un policier, je crois.
J'ai assisté à cette dénonciation par un de nos collègues qui était là. Il a parlé du sac, il a donné des informations très précises, mais à cette époque-là, bien naturellement, ça n'a pas suivi. L'inspecteur qui était en garde à cette époque-là, en charge de l'enquête, n'a pas suivi. Qui n'était pas l'inspecteur Neveu, j'entends bien.
L'inspecteur Neveu qui est avec nous, vous venez d'entendre Monsieur Benco, Monsieur Neveu, un témoignage qui est passé à la trappe, ça arrive dans une enquête comme cela ?
Bah écoutez, si M. Blanco le dit, c'est que c'est vrai. Et c'est vrai que exactement ce genre d'affaires appelle des tas de on-dit, de dénonciations, de suppositions. Et un enquêteur ne peut pas peut-être seul faire face
bien sûr
à un raz-de-marée d'informations.
C'est pas toujours facile de faire le tri. En quelques mots, Alain Hamon, encore une question. Il va s'arrêter pendant 3 ans, notre tueur de l'ombre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi il y a ce stop dans sa trajectoire ?
À l'époque, toutes les hypothèses ont été émises. Le tour des hôpitaux psychiatriques, des psychiatres, des psychologues a été fait pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un de malade qui avait été hospitalisé, qui avait été même enfermé chez les fous. Rien n'est apparu de la sorte. Et il n'y a pas eu des... pas eu d'explication véritablement, même au procès de Barbeau, il n'y a pas eu de véritable explication.
On n'aura pas la clé de cette absence.
Non, mais on n'aura pas la clé. De toute façon, aujourd'hui encore, vous avez dit que ça faisait 45 ans qu'il était enfermé, qu'il allait avoir bientôt 80 ans au mois d'août. Il manque encore pas mal de choses. Il y a des zones d'ombre dans cette affaire.
Le tueur de l'ombre va reprendre du service en ce début des années 70. Il va relancer sa chasse frénétique aux femmes brunes qui habitent à Nogent-sur-Oise et aux alentours immédiats. Il va tuer 6 fois encore. Mardi 6 février 1973 au soir, Annick Delisle, 29 ans, ouvreuse dans un cinéma de Creil, s'apprête à rentrer chez elle, allée Paul Verlaine, à Nogent-sur-Oise. Elle n'a plus que quelques mètres à faire quand un homme qui la suit lui saute dessus. Son mari va découvrir un peu plus tard le corps d'Annick, en partie dénudé, poussé dans un buisson. Elle a été assommée à coups de matraque, achevée d'une balle dans la nuque. Annick Delisle, on s'en souvient, c'était déjà déjà fait tirer dessus sans raison, il y a 6 ans, et avait déposé plainte. Les policiers ne font pas le rapport avec le tueur de l'ombre, ils penchent plutôt pour un meurtre passionnel. Le mari est interrogé, mais mis hors de cause. 3 mois plus tard, 29 mai 1973, la stupeur s'empare de la région. 2 corps sans vie viennent d'être retrouvés dans le cimetière de Laigneville, au nord de Nogent. Il s'agit d'un couple d'amoureux qui était venu la veille au soir flirter dans ce coin tranquille. Eugène Stéphane, 24 ans, est écroulé dans sa voiture. Sa petite amie, Morissette Van Hift, 23 ans, gît à quelques mètres dans une mare de sang. Tous deux abattus avec une carabine 22 longs rifles. Un homme fait pour la première fois partie des victimes, mais pour les enquêteurs, aucun doute, le tueur de l'ombre est bel et bien de retour. Le cauchemar va durer encore 3 ans. 8 janvier 1974, Josette Routier, employée de banque, 29 ans, une femme brune comme les autres victimes. Le tueur l'attend chez elle, cachée dans les doubles rideaux. 2 balles dans la tempe, ses sous-vêtements arrachés. 26 novembre 1975, Julia Goncalves, 29 ans, employée de blanchisserie, retrouvée près d'un ruisseau, le bas du corps et la poitrine dévêtue, tuée par balles. Son sac et sa jupe sont retrouvés dans les fourrés. 6 janvier 1976, Françoise Jakubowska, 21 ans, secrétaire à EDF, agressée près de Creil, assommée, poignardée, achevée à coups de carabine, son soutien-gorge et son slip ont été ôtés par l'assassin. Sous la houlette du commissaire Christian Jacob, l'inspecteur Daniel Neveu est alors chargé de l'affaire. Il reprend méthodiquement tous les cas d'homicide recensés dans la région. Il élargit même ses recherches aux nombreux cambriolages de ces dernières années. L'inspecteur Neveu est troublé par certains détails. Ici, une couverture tendue devant une fenêtre, comme lors du meurtre de Josette Routier, ou des photos de famille étalées en évidence, comme le ferait un voyeur. Le policier a le sentiment que le tueur de l'ombre et le cambrioleur ne font qu'un seul homme. L'inspecteur Neveu va constituer une liste de 150 suspects, parmi lesquels figurent un ouvrier du coin et un père de famille, Marcel Barbeau. Daniel Neveu, je viens de parler de vous, on va voir comment la police et comment évidemment vous et la police de Creil va arrêter Barbeau. On va le voir dans le chapitre suivant. Dans quel état trouvez-vous le dossier de ces crimes quand vous le reprenez, quand vous en avez la charge ?
Mais quand j'arrive en septembre 1974, donc après quelques mois du crime de Josette Routier, les dossiers, je ne dis pas qu'ils sont dormants, mais enfin, ils ne sont pas très, très vivants, puisqu'on se suffit à rechercher une carabine qui aurait été vendue par Manu France, une carabine automatique qui correspondait à celle utilisée lors du dernier crime. Mais ça partait du principe que la personne l'avait acquise en bonne et due forme et qu'il s'en servait. C'était peut-être un petit peu...
Ouais. Et ça pouvait être une arme volée aussi, tout simplement.
Parce que chaque crime contient un vol.
Oui, c'est ça.
Donc quand on pense à voler au bout d'un crime... Je pense qu'on est déjà un voleur.
Ouais. Alors, c'est une idée géniale que vous avez tout de même, je vous envoie des fleurs, mais je le pense réellement, de rapprocher ces crimes de sang avec des cambriolages. Vous avez ce sentiment qu'il y a un même homme sur les mêmes scènes, etc., qui agit de la même manière ?
Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cambriolages atypiques dans la région de Nogent. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un voleur qui prend son temps pour regarder des photos de famille, ou qui éparpille des effets de femme sur un lit, ou qui vole une montre qui ne marche plus, ou qui accapare des objets de peu de valeur, n'est pas un cambrioleur normal.
Oui.
Or, ce genre de cambriolage, il y en avait des dizaines sur nos gens.
Ouais, donc ça vous a effectivement surpris et mobilisé. Alain Hamon, ancien reporter à RTL, et vous avez bien connu cette affaire, vous l'avez suivi. À l'époque, je parlais de ces morts au cimetière. Vous êtes sur place à l'époque. C'est complètement stupéfiant, cette histoire.
Oui, c'est le dernier... En fait, le cimetière de Laigneville, c'est la dernière affaire dont je vais m'occuper comme correspondant de presse. J'avais commencé pour l'agence France Presse, pour le Figaro. Et puis pendant les 3 ans où le tueur n'a pas frappé, je suis devenu aussi correspondant de RTL. Donc au cimetière de Laigneville, j'y vais comme correspondant de RTL. Et alors là, je vais vous dire, c'est du grand n'importe quoi.
Pourquoi ?
Je suis avec le correspondant local du Parisien. J'arrive un petit peu après lui, et lui, bah, il est au milieu de ce que l'on appelle aujourd'hui la scène de crime. Mais enfin, s'il était tout seul encore, ça pourrait aller. Bien qu'un journaliste piétinant une scène de crime, c'est quand même assez ennuyeux pour les constatations. Mais au milieu de tout ça, il y a 40 gendarmes, 45 gendarmes, parce que c'est sur le territoire de la gendarmerie. Donc les gendarmes arrivent en masse. Ils arrivent du coin. Ils arrivent de Beauvais. Ils arrivent de Clermont et ils marchent partout et ils piétinent partout. C'est terrible pour les constatations, quoi, je veux dire.
On est d'accord, aujourd'hui, ça serait sans doute un peu plus compliqué d'assister à ce genre de scène. Et puis, il faut rappeler, Alain, que vraiment, à l'époque, la guerre police-gendarmerie, c'est pas du chiquet. Ça existe vraiment.
Ah bah, Daniel Neveu pourra le confirmer, mais à l'époque, ils se tirent tous à la bourre, les uns les autres. Ça ne fait aucun doute. Et surtout pour des affaires comme ça. Alors cela dit, les gendarmes, ils ont choisi au départ, dans l'affaire du cimetière de Lingville, ils ont choisi la facilité au départ, parce que pour eux, c'était pas le tueur de l'Oise. Il était impossible que le tueur de l'ombre soit sur ce coup-là. Ils en voulaient pas. Pour eux, comme c'était un couple...
Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait un homme tué, ça ne correspondait pas au modus operandi.
Donc ça ne correspondait absolument pas. Ça devait être ou un règlement de compte entre amoureux transis, ou quelqu'un qui avait volé la petite Morissette Van Ift à quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref, ils n'en ont pas voulu. Et puis, une fois de plus, il y a eu la balistique. Ouais. Et la balistique a mis les pendules à l'heure. Parce qu'une fois de plus, la carabine, elle avait servi à un crime précédent. Ouais. Donc voilà.
Daniel Neveu, quand il y a les crimes au cimetière, et puis ensuite il y a toute cette série de crimes qui vont... On a l'impression que c'est une hémorragie. Vous avez ce sentiment d'impuissance à l'époque, de ne pas pouvoir arrêter ce flux de crimes ?
C'est l'impression que j'ai, et puis c'est une impression réelle. Hein. Il y a les enquêtes, comme je l'ai fait remarquer, étaient relativement au point mort. En ce qui concerne, par exemple, le rapprochement obligatoire qu'on est obligé de faire entre le double crime de Lignoville et de celui de Josette Routier, puisque c'est la même carabine qui a servi. Vous avez donc un service enquêteur qui est la gendarmerie, qui est rattaché au parquet de Beauvais, avec un juge d'instruction qui suit l'affaire à Beauvais, tandis que Josette Routier, quelques mois après, est en zone judiciaire de Senlis, avec la police, et un juge d'instruction à Senlis qui instruise différemment.
Ce qui ne facilite pas les investigations.
À Beauvais, on recherche un proxénète, et à Senlis, on recherche un tueur.
Tout à fait. Mais encore un mot, Daniel Neveu, vous êtes vraiment dans ce sentiment que ce type-là, c'est incroyable, on ne va pas arriver à l'arrêter, ce n'est pas possible.
Oui, bah écoutez, c'est le sentiment premier que j'ai eu, mais c'est le sentiment que j'ai refusé d'avoir par la suite, car je me suis dit que sur un territoire circonscrit avec 40 à 60 000 habitants, par élimination, on finirait bien par trouver l'auteur.
Et le nom de Marcel Barbeau va finir par émerger, un colosse qui correspond point par point aux rares descriptions faites de lui. Au portrait robot aussi, un personnage peu bavard qui va nier obstinément les faits qui lui sont reprochés. À la mi-septembre 1976, le commissaire de Creil, Christian Jacob, reçoit un coup de fil anonyme édifiant. L'interlocuteur dénonce un homme qu'il présente comme le tueur de l'ombre. Il ne livre pas de nom, mais c'est tout comme. L'homme que vous recherchez a fait l'Algérie. C'est un ancien de l'usine Rivière de Montataire. Il est marié à une blonde et c'est aussi un voleur. Le portrait cadre avec un certain Marcel Barbeau. Ce dernier a été arrêté en 1974 en flagrant délit de cambriolage. Il était effectivement ouvrier à Montataire aux établissements Rivière et travaille à présent à l'usine Saint-Gobain. Il est marié à une secrétaire, Josiane, une jeune femme blonde. Le couple a deux enfants et vit quartier des Martinets à Montataire, une cité HLM récente. Qui plus est, l'inspecteur Neveu avait noté lors du double meurtre du cimetière que le tueur connaissait parfaitement les lieux et devait y venir souvent. certaines tombes, bien entretenues, étaient au nom de Barbeau. Le 14 décembre 1976, Marcel Barbeau, 35 ans, est interpellé alors qu'il rentre chez lui. À son domicile, les policiers découvrent la carabine qui a servi aux deux derniers meurtres. Son épouse assure qu'elle ignorait tout de ce qui lui est reproché. Elle finit par admettre qu'après la publication du portrait robot, elle a un peu tiqué, mais n'a confié son sentiment à personne. 5 ans après son arrestation, le 25 mai 1981, Marcel Barbeau, décrit par le journal Le Monde comme un gros garçon rougeau qui a quitté l'école à 14 ans, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises de l'Oise. Il est poursuivi pour 5 des 8 meurtres dont il était soupçonné. Parmi les pièces à conviction, une carabine Gekado 22 longs rifles, mais pas de preuves matérielles accablantes. Parmi les présomptions, le fait que les meurtres ont toujours été accomplis quand il était de repos. Barbeau nie méthodiquement les accusations. À propos des armes à feu et des poignards qu'il détient chez lui, il répond simplement « c'est ma passion ». Il se dit étranger à ces meurtres, il n'est pas un tueur. Quand le président de la cour lui demande des explications, l'accusé répond « Quelles explications, monsieur le président? Je suis innocent de ces crimes, je le dis depuis 5 ans. » Le 10 juin, après 19 heures de délibéré, Marcel Barbeau est déclaré coupable, condamné à la perpétuité. Il sera rejugé suite à un pourvoi en cassation, mais à nouveau condamné à la perpétuité. Daniel Neveu, ancien policier, c'est vous finalement qui faites tomber Marcel Barbeau, on peut le dire comme ça. Quel est l'homme que vous arrêtez? À quoi ressemble-t-il? Quel souvenir avez-vous de votre premier face-à-face avec cet individu?
Le premier face-à-face m'a conforté dans ma conviction qu'on était tombé sur le bon, puisqu'on venait d'apprendre que la carabine découverte dans sa cave était la bonne carabine, c'est-à-dire celle qui avait tué les deux dernières victimes. Premièrement, physiquement, il faisait tout à fait le poids. Il avait un regard tout à fait particulier. Il était brun, beau gosse finalement. Et c'était un personnage qui ressemblait à ce que j'avais imaginé.
Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous dit, Daniel Neveu? Est-ce qu'il est bavard? Est-ce qu'il est détendu? Comment est-il?
Non, Barbeau n'est pas bavard en ce qui concerne les crimes. Heureusement, il a été beaucoup plus bavard en ce qui concerne les vols. Et c'est à cause des vols, à mon avis, qu'il s'est piégé tout seul.
C'est ça, vous avez pu finalement l'attraper grâce à ces vols, avec ce scénario de vol très particulier, c'est ça? Vous faites la connexion.
C'est-à-dire que la Gekado, dont il dit qu'il a trouvé les morceaux carabine, derrière une tombe, la carabine Gekado, il dit l'avoir trouvée en pièces détachées derrière une tombe d'une tombe de famille. Donc déjà, ça confirmait qu'il connaissait bien le cimetière de Lignerie. Quelque part, il tendait une perche dont on n'avait pas besoin. Cette carabine, quand on détermine l'endroit où elle a été volée, c'est un pavillon qui est mitoyen d'un autre pavillon où il a volé et reconnu avoir volé un couteau, celui qu'on retrouve en même temps dans sa cave. Si vous voulez, pour croire à son innocence, il faut croire que deux objets, une carabine et un couteau, ont retrouvé par hasard dans sa cave une proximité qui était la leur, 2 ans plus tôt, à 8 km de là, dans 2 pavillons mitoyens, dont l'un aurait été cambriolé par Barbeau et l'autre pas.
Donc c'est pour le moins troublant, effectivement. Vous ne pouvez que finalement vous arrêter sur ces détails. Édouard Benco, ancien collègue de Marcel Barbeau, vous l'avez évidemment bien connu, fréquenté. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle trajectoire?
Non, il n'y a rien qui le prédestinait à sa future destinée, hein, si on peut dire. On a travaillé ensemble, côte à côte pratiquement, de 68 jusqu'en 75. On avait des bonnes relations, bien sûr. Quelquefois, il est venu manger chez moi, quelquefois, oui. On dînait ensemble, quelquefois. Puis un collègue très sûr, gentil, prévenant. Sinon, on ne pensait pas du tout ça au départ.
Alors, un collègue gentil et prévenant, Alain Hamon, à ce procès, quel est cet homme qui apparaît à l'audience?
Écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, Barbeau nie. d'un bout à l'autre. Donc déjà, faut pas attendre quoi que ce soit de lui. Et non seulement faut pas attendre quoi que ce soit de lui, mais il y a des moments où, pendant le procès que j'ai couvert avec Jean-Claude Larivard à l'époque,
de RTL,
oui, on avait l'impression qu'il n'était pas là, quoi. Je veux dire, c'est comme s'il n'avait pas été là. Bon, son avocat, l'excellent Jean-Louis Pelletier, qui est un ami personnel, qui est devenu un ami personnel.
Mais qui est un avocat formidable, c'est vrai.
Voilà, absolument. Sauf qu'il s'est retrouvé avec Daniel Neveu en face de lui. D'ailleurs, il m'avait demandé, Jean-Louis Pelletier m'avait demandé, il m'avait dit, c'est qui ce Daniel Neveu? Et je lui avais répondu, tu vas avoir fort à faire. Bon, c'est exactement ce qui est arrivé à la barre.
C'est effectivement Daniel Neveu qui est avec nous ce soir. C'est Daniel Neveu, en un mot, c'est vous qui faites un peu basculer le procès quand même. Hein, vous le chargez à bloc, Barbeau. Pas de cadeau.
Ah, j'ai fait une déposition de près de 2 heures. Je crois que j'ai été relativement convaincant. Sinon, très convaincant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alain Hamon, encore une question. C'est un soulagement dans la région quand il est arrêté et qu'il y a ce procès.
Bien sûr, c'est un soulagement. Vous imaginez que comme ces victimes étaient brunes, il y avait des femmes et en grand nombre qui se teignaient en blond.
Non.
C'est pas une légende.
Ce n'est pas
une légende. On en a rencontré, on en a interviewé. Les télévisions, les radios ont interviewé des jeunes femmes qui s'étaient teint les cheveux en blond pour essayer de passer inaperçues si elles croisaient le tueur. Alors maintenant, pour ce qui est de la personnalité de Barbeau, en fait, les seules choses que l'on va apprendre, c'est à travers les rapports des experts psychiatres et psychologues, qui sur ce procès-là, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas fort brillé. Ouais. Mais il y a quand même des questions qu'on peut se poser à partir de ce procès. Je ne sais pas si Daniel Neveu sera d'accord, mais est-ce que la mort de sa mère ne déclenche pas tout? Sa mère est morte en 1968.
Alain Hamon, je vous propose d'y répondre à ces questions dans le chapitre suivant, qu'on va aborder tout de suite, avec la mort de sa mère, parce que là, c'est peut-être une des clés de la personnalité de Barbeau. Marcel Barbeau, tueur de l'ombre, passe cette fois réellement à l'ombre. Et pour de très longues années, en fait, il ne va jamais sortir de prison, devenant au fil du temps le plus ancien détenu de France. Le 10 août 2021, Marcel Barbeau fêtera ses 80 ans. Il aura passé le plus clair de son existence derrière les barreaux. Il est devenu le plus ancien détenu de France, un homme qui a passé 45 ans en prison sans discontinuer. Marcel Barbeau est détenu à la centrale de Saint-Maur dans l'Indre. Un prisonnier, selon le journal Le Parisien, qui continue à se lever très tôt, marche beaucoup pour s'entretenir et ne pose jamais de problème. Barbeau est un solitaire qui a tenu longtemps la bibliothèque de la prison. Il ne reçoit que de rares visites. Lors du procès, un psychiatre n'avait pas pu sonder réellement les tréfonds de son âme. L'expert s'était contenté de lui attribuer une personnalité banale. Barbeau n'est jamais revenu sur ses dénégations et a toujours répété qu'il était lui-même la 9e victime du tueur de l'ombre. Rien n'aura donc filtré sur ses possibles motivations, les raisons qui auraient pu l'entraîner à s'attaquer à des femmes brunes. Pour certains, le déclic aurait été la mort de sa mère en 1968, un traumatisme qui aurait complètement changé son comportement. L'inspecteur Neveu se souvient ainsi que la seule évocation de sa mère décédée le rendait irascible. Alain Hamon, on vous retrouve, ancien reporter RTL, et vous avez couvert à l'époque cette affaire. Vous parliez de ce déclic avec la mort de sa mère qui aurait entraîné finalement cette folie meurtrière. Expliquez-nous un petit peu cette hypothèse.
C'est-à-dire que sa mère est morte dans des conditions horribles. D'abord, elle souffrait d'un cancer du sein. On a été obligé de lui faire l'ablation d'un premier sein, puis du second. Donc c'est quand même assez difficile à vivre. Sa souffrance a duré pendant des mois et des mois. Et elle est morte toujours dans de terribles souffrances et en plus avec une hémorragie incroyable. Bon, et il faut savoir que elle est morte dans les bras de Marcel, de Marcel Barbeau. Elle est morte dans ses bras et c'est lui qui a tout pris en compte. Bon, ajoutons à ça que Marcel Barbeau avait entre autres deux frères, un qui est mort subitement un jour dans un accident de la route et un autre qui après la reprise des crimes, ceux de 73 et 74, s'est jeté sous un train, s'est suicidé en se jetant sous un train, pour des raisons qui sont toujours restées obscures.
Ouais, moi, personnellement... Parce qu'il savait,
moi,
il savait.
Écoutez, c'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce que le frère Roger, le frère de Marcel Barbeau, n'a pas fini par comprendre, ne serait-ce qu'avec le portrait robot, peut-être.
Bien sûr.
Sa femme l'avait bien reconnu.
Ah oui, bon, oui, puis le portrait robot est frappant, c'est vraiment, vraiment lui. Quoi.
Est-ce que Roger Barbeau n'avait pas compris que son frère était le tueur,
ouais.
Il n'a pas pu supporter et il n'a pas voulu non plus le donner à la police, et donc il s'est jeté sous un train.
C'est possible.
Allez savoir. Mais la mort de la maman de Marcel Barbeau, qui était une petite brune,
oui.
C'est la seule explication qui tient à peu près debout. Vous avez eu raison de le rappeler. Les psychiatres
oui.
commis au procès n'ont pas brillé
particulièrement nul,
voilà.
Même d'après ce que j'ai pu lire,
vraiment,
ça volait pas très haut. Daniel Neveu, un mot quand même sur cette explication qui vaut ce qu'elle vaut, la mort de cette mère. Je crois que quand vous lui posez la question, ça l'énerve beaucoup, Barbeau. Il veut pas vous répondre là-dessus.
C'est-à-dire qu'on a découvert dans sa fouille, dans son portefeuille, donc une feuille d'écolier, une feuille de page d'écolier, où il était inscrit tous les membres de sa famille qui étaient décédés. Donc effectivement, l'un de ses frères, enfin deux de ses frères, plus sa mère.
Mmh.
Et quand je lui ai demandé si les décès de famille, notamment celui de sa mère, avaient quelque chose à voir avec ses motivations.
Mmh.
Et il a quasiment sauté sur le bureau.
Ah oui, il y avait de la violence en lui.
Parler de sa mère, c'était le provoquer.
Ouais. Et sa mère qui était brune, et c'est un homme qui attaquait des femmes brunes. Alors on peut tout imaginer, tout interpréter, évidemment ça reste ouvert, parce que c'est pas lui qui vous a dit quoi que ce soit là-dessus, puisqu'il ne parle pas, on est d'accord, Daniel Neveu. Hein.
Ça, c'est sûr que c'est peu de confidence.
C'est pas un très bon client, c'est une espèce de forteresse. Édouard Binco, collègue de Marcel Barbeau, il y a une question qui me trotte dans la tête, vous le connaissiez à l'époque, vous le fréquentez, vous avez mangé avec lui, vous en parliez avec lui de tous ces crimes?
Dans les premiers meurtres, oui. Moi, j'achetais le journal tous les matins pour l'ensemble des collègues qui étaient là. On lisait le journal ensemble, au casse-croûte du matin. Et lui, il en faisait partie, bien sûr. Et puis, c'est plusieurs années plus tard, peut-être 3 ou 4 ans plus tard, qu'il faisait plus partie de la bande. Il voulait plus lire les journaux. C'était lui qui s'était retiré seul, volontairement, ouais. De la bande.
Et il s'était retiré, d'ailleurs, il s'est chaque fois retiré, même au procès, il va être absent, etc. Il ne va pas beaucoup parler. Alain Hamon, je rappelle que cette affaire figure... c'est le premier chapitre de votre livre « Bonjour, on vient pour l'affaire », livre que je conseille d'ailleurs à nos auditeurs parce qu'il y a plein d'histoires passionnantes. En quoi cette affaire-là, alors c'est votre baptême du feu journalistique, mais ça on l'a déjà dit, mais en quoi cette affaire-là, elle est exceptionnelle, l'affaire Barbeau?
Ah bah écoutez, moi j'ai toujours expliqué que c'était le premier tueur en série français à l'américaine. À l'américaine, c'est-à-dire arme à feu, c'est assez rare chez les tueurs en série tout de même, unité de temps, unité de lieu, le côté glauque du paysage, ou le matin de très bonne heure ou le soir tard, généralement l'hiver ou en automne, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un thriller américain. Alors naturellement, bon, des tueurs en série en France, il y en a eu d'autres, si on remonte à Gilles de Rais, naturellement on va en trouver.
Oui, enfin, vous avez Landru, ouais, etc., il y a beaucoup de monde.
Oui, oui, bien sûr, non mais bien sûr, mais de la façon dont il tuait, et je le répète, avec une arme à feu, ce qui est rare chez les tueurs en série, j'en ai traité d'autres des tueurs en série, l'arme à feu, c'est vraiment très très rare.
C'est exact, oui.
Et ben pour moi j'ai toujours estimé que c'était le premier tueur en série français à l'américaine, voilà. Bon, maintenant, puisque on parle de ces 45 ans de prison,
oui.
Il y a quelques années, sa sœur m'avait téléphoné parce que elle voulait dénoncer quelque chose. Elle m'avait expliqué que les magistrats qui s'occupaient de son dossier, qui continuaient à s'occuper de son dossier, ou plutôt de son incarcération, qu'il suivait, selon elle, lui faisaient un espèce de chantage à la liberté provisoire, c'est-à-dire, bon, écoutez, Monsieur Barbeau, vous avouez, et puis peut-être qu'on va...
Toutes ces années après ? Toutes ces années après ?
Oui, oui, absolument, oui, tout à fait, oui.
Et
donc, Et donc, bon, très, très franchement, si c'est la vérité, je trouve pas ça très, très, très glorieux pour la
alors,
justice française.
Alors, bon. Attendez, alors, si c'est la vérité, parce que...
Hein, donc c'est, ah c'est, non, non, mais
c'est,
bien sûr
c'est une parole, le fait est, c'est que Barbeau, c'est une constante chez lui, il a fait jamais parlé, c'est une tombe, je veux dire, hein, c'est quelqu'un...
Oui, mais en plus, il y a une autre chose, et ça, Daniel Neveu va vous le confirmer, moi je ne sais pas si on le relâchait demain, je ne sais pas s'il recommencerait, s'il récidiverait. Oui. Je crois que Daniel Neveu, lui, en est persuadé.
Eh bien, j'arrive au bout de l'émission et il va avoir le dernier mot, Daniel Neveu. Daniel Neveu, vous pensez qu'il était prêt à recommencer quand vous l'avez arrêté?
Je pense qu'on l'a arrêté la veille ou l'avant-veille d'un nouveau crime, oui.
C'était à la limite, il était prêt à récidiver?
Oui, il avait tout ce qu'il fallait dans sa cave. Le déguisement, l'arme, le couteau... Il avait menti à son épouse sur ses horaires de travail depuis 3 jours. Donc je pense qu'il était en phase d'observation et de préparation de guet-apens.
Merci beaucoup Daniel Neveu, merci Alain Hamon et Édouard Binko d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du tueur de l'ombre, Marcel Barbeau, 45 ans de prison, le plus ancien détenu qui n'a jamais reconnu ses crimes. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.